Il est 18h, merci à vous d'écouter Europe 1.
C'est notre seul espoir en fait de se faire vacciner. Si ça nous permet de pouvoir avoir des petits boulots, si ça permet de pouvoir retrouver une vie normale, les sorties, les amis et les cours aussi, moi c'est tout ce que je souhaite.
Les jeunes se ruent sur les vaccins, la confiance dans la vaccination remonte nettement, plus 16 points en un mois selon le baromètre Cevipof pour Le Monde.
Des soupçons de favoritisme autour de l'application Stop Covid.
Le parquet financier ouvre une enquête, l'association anticorruption Anticor estime qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres pour la maintenance de l'application lancée par le gouvernement.
Emmanuel Macron annonce la création d'un statut de mort pour le service de la République, pour les soignants ou bien pour les agents publics décédés. Du Covid.
Une crise à la BBC, la prestigieuse télévision publique britannique est accusée de méthodes journalistiques douteuses pour obtenir l'interview culte de Lady Di il y a 25 ans dans laquelle la princesse reconnaissait la liaison de son mari avec Camilla Parker Bowles. Dans ce journal également, le pass sanitaire pour pouvoir assister aux grands concerts et aux festivals de l'été, mode d'emploi. La Bourse de Paris termine en hausse de 0,68% à 6386 points.
La météo, bonsoir Anissa.
Bonsoir Isabelle.
Alors on aura encore beaucoup de vent demain.
Oui, ça a soufflé déjà très fort aujourd'hui. On a eu des rafales jusqu'à 120 km/h sur la côte d'Opale. Et bien demain, ça va souffler fort, mais cette fois-ci sur les trois quarts du pays et dans les terres avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Le temps sera également très mitigé dans le ciel avec le retour de nombreuses averses. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est un bond spectaculaire de la confiance des Français dans la vaccination.
On était à 49% de Français qui voulaient se faire vacciner le mois dernier. Nous voilà à 65%, 16 points de plus, selon le baromètre du Cevipof pour le journal Le Monde. Un sursaut notamment chez les jeunes, comme Romain, 20 ans, croisé dans une file d'attente d'un centre de vaccination, Porte de Versailles à Paris.
Je suis étudiant, donc ça fait un an et demi qu'on a pu très peu aller à la fac. C'est notre seul espoir en fait de se faire vacciner, de pouvoir y aller. Après voilà, il y a aussi les vacances qui arrivent. Si ça nous permet de pouvoir avoir des petits boulots, si ça permet de pouvoir retrouver une vie normale, les sorties, les amis et les cours aussi, moi c'est tout ce que je souhaite. Et puis il y a aussi l'aspect famille. Hein. Nos grands-parents sont vaccinés déjà, mais c'est important pour nous de protéger les plus fragiles et ça passe par ça.
Un jeune vacciné au micro Europe 1 de Romain Hougues. Comme lui, les jeunes sont de plus en plus nombreux à tenter le créneau de rendez-vous du jour au lendemain, Victor Delande.
Oui, alors que les moins de 40 ans ne comptaient que pour 7,6% des primo-vaccinés fin avril, désormais, ils représentent près d'un tiers d'entre eux. C'est considérable. Ça veut dire que concrètement, dans les centres de vaccination, un bras vacciné sur trois appartient désormais à un Français de moins de 40 ans. Et cette augmentation est continue, rien que pour la semaine dernière. 660 000 personnes de moins de 40 ans ont reçu leur première injection, plus du double par rapport à la semaine précédente. Les jeunes sont donc de plus en plus nombreux à vouloir se faire vacciner. On le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. Selon une étude réalisée par Santé publique France, cette fois, 55% des 18-24 ans comptent se faire vacciner, contre 36% seulement un mois plus tôt. Dans les raisons les plus souvent avancées, c'est le pass sanitaire qui arrive en tête, une sorte de carotte sanitaire visiblement efficace pour des jeunes qui veulent voyager cet été et oublier le coronavirus.
Merci beaucoup Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier que la vaccination serait ouverte à tous les adultes dès le 31 mai, c'est-à-dire lundi dans 10 jours.
Et chez les plus de 75 ans vaccinés à partir de 7 jours après l'injection de la deuxième dose, le vaccin réduit de 87% le risque de forme grave de Covid-19. C'est la première étude en vie réelle menée en France qui est publiée aujourd'hui. Il y a ce soir moins de 3800 patients à l'hôpital en soins critiques. Mais toujours beaucoup de contaminations, 12 500 cas en moyenne détectés chaque jour. Et puis les jeunes de 18 ans, tout pile, pourront eux bénéficier d'un forfait de 300 euros pour acheter des places de concert, des billets de cinéma ou d'autres biens culturels. C'est le fameux pass culture qu'Emmanuel Macron a décidé de généraliser après 2 ans d'expérimentation.
Des soupçons de favoritisme autour de l'application Stop Covid.
Cette application pour smartphone devenue tous anti-Covid, lancée par le gouvernement au printemps 2020, le parquet national financier vient d'ouvrir une enquête préliminaire pour favoritisme. Ça n'est pas le développement de l'application qui est en cause, mais le forfait facturé pour sa maintenance entre 200 et 300 000 euros par mois, selon les informations de l'Obs, par une filiale de Dassault Systèmes, sans appel d'offres, selon l'association anticorruption Anticor, qui alerte la justice depuis un an, son avocat Jean-Baptiste Souffron.
Depuis le début, il y a eu un manque, d'abord une opacité de la manière dont ce projet a été monté, opacité qui s'est traduite d'un point de vue financier par, en apparence, une absence de marché public. Et on ne parle pas de petits montants, puisque si l'on met tout bout à bout, cela représente plus de 6,5 millions d'euros au fur et à mesure du développement de ce marché. C'est d'autant plus important que cette application a été annoncée dans l'urgence, touchant une situation de crise, et il fallait donc procéder le plus vite possible. Mais c'est peut-être vrai d'un point de vue matériel, mais ça ne doit pas être vrai d'un point de vue juridique. Il y a quand même des étapes. Et ces étapes, elles sont là. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent public. Et que cet argent public, surtout dans une situation de crise sanitaire, il faut d'autant plus s'assurer qu'il ne soit pas détourné, manipulé ou simplement qu'on ne respecte pas les règles normales de la concurrence.
Maître Jean-Baptiste Souffron, l'avocat d'Anticor au micro de Justin Morin. Un large périmètre de confinement a été mis en œuvre dans une zone industrielle à Amiens après un accident dans une usine classée Céveso. Une fuite d'acide chlorhydrique a été détectée dans une cuve fissurée. L'usine appartient au groupe japonais Ajinomoto qui fabrique des acides aminés pour l'alimentation animale. Aucune toxicité dans l'air n'a été détectée selon la préfecture de la Somme.
Le président de la République veut créer un statut spécial pour les enfants de soignants ou d'agents publics décédés du Covid.
Leurs parents décédés pendant l'épidémie obtiendraient le statut honorifique de mort pour le service de la République, Aurélie Herbemont.
Eh oui, à circonstances exceptionnelles, reconnaissance exceptionnelle. Aujourd'hui, la mention « mort pour la France » est utilisée pour les militaires décédés au combat. La mention « mort pour le service de la nation » est dédiée aux forces de l'ordre. Victimes du terrorisme, par exemple. Au début de la pandémie, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait dit « Nous sommes en guerre ». Il y aura donc bientôt la distinction « mort pour le service de la République ».
Je souhaite que nous donnions à notre reconnaissance un ancrage solide dans la loi. Que l'on accorde aux agents publics décédés dans des circonstances exceptionnelles au service du bien commun un statut spécifique, celui de « mort pour le service de la République », qui permette à leurs fils, à leurs filles, de devenir des pupilles de la République.
Des pupilles de la République sur le modèle des pupilles de la nation, statut créé en 1917 pour assurer un avenir aux millions d'enfants de soldats ou de victimes civiles de la Première Guerre mondiale, ouvert en 90 aux enfants de victimes du terrorisme. Les enfants de soignants bénéficieront donc du même type de soutien de la part de l'État, notamment sur le plan financier, avec des coups de pouce pour les études, par exemple. Ce sera au menu de l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine.
Aurélie Herbemont, merci, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Une annonce forte en faveur du climat au G7 à Berlin. Les pays participants viennent de s'engager à ne plus subventionner les centrales à charbon à fin 2021.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et crise à la BBC, la télévision publique britannique, après une interview choc de la princesse Diana, c'était il y a 25 ans.
Et puis les concerts, les festivals avec le pass sanitaire, mode d'emploi dans un instant.
A tout de suite. 18h09, c'est la suite du journal de Virginie Salmen sur Europe 1 et c'est une interview devenue culte, celle de Lady Di à la BBC.
Oui, la princesse reconnaissait qu'il existait bien une relation extra-conjugale entre son mari Charles et Camilla Parker Bowles. 25 ans après cet entretien, un rapport indépendant révèle que la très réputée BBC a utilisé des méthodes quasiment de tabloïd. Bonsoir Yasmine Akatou.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on reproche exactement à l'intervieweur Martine Bachir ?
Eh bien, pour faire parler Lady Di, Martine Bachir a fabriqué de toutes pièces des documents de faux relevés bancaires prouvant que des proches à Buckingham Palace étaient payés par les services de sécurité pour l'espionner. Le journaliste est passé par le frère de la princesse qui en a ensuite parlé à Diana. De fausses preuves d'espionnage qui ont troublé Lady Di jusqu'à la pousser à faire des révélations choc. En 1995, devant 23 millions de téléspectateurs, elle révèle les infidélités de son mari, les relations qu'elle-même entretenait et même ses problèmes de boulimie. Ce matin, le prince William a dénoncé des tromperies de la part de la BBC.
Je considère que la manière trompeuse dont l'interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit. C'est triste de savoir que les erreurs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, à sa paranoïa et son isolement.
Le prince Harry a lui évoqué dans un communiqué des pratiques contraires à toute éthique. La BBC étant une chaîne publique, le gouvernement britannique envisage de réformer la gouvernance de la BBC.
Yasmina Katou. De nouveau, heurts entre fidèles palestiniens et policiers israéliens. Les liens ont éclaté à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées après la prière musulmane du vendredi et quelques heures après l'annonce d'un cessez-le-feu. Pas d'escalade à ce stade.
Ces 11 jours de violence ont fait plus de 243 morts côté palestinien, dont la moitié de femmes et d'enfants et 12 côté israélien.
Et puis 5 corps ainsi qu'une dizaine de survivants ont été retrouvés dans des tunnels souterrains de la bande de Gaza bombardés par l'armée israélienne ces derniers jours, selon les secouristes locaux. Nous y reviendrons avec notre spécialiste des questions internationales, Didier François dans le journal de 19h.
En ce début de week-end prolongé, Virginie, on peut commencer à profiter des terrasses, ça y est, et bientôt, bientôt des concerts et des festivals.
Et oui, mais pour ça, il faudra un pass sanitaire. Ce sera le cas, par exemple, pour le Festival breton des Vieilles Charrues, l'un des rassemblements emblématiques de l'été avec les Francofolies de La Rochelle. L'affiche a été dévoilée ce matin sur Europe 1. Bonsoir, Angèle Châtelier.
Bonsoir.
Alors, il y aura Benjamin Biolay, Catherine Ringer, Feu Chatterton, Vianney ou encore Isolde. 5000 spectateurs par soir, c'est 6 fois moins que d'habitude. Comment ça va se passer ?
Eh bien oui, le public sera même assis et masqué, mais le pass sanitaire, vous n'y couperez pas. Car à partir du 9 juin, il devient obligatoire pour tous les rassemblements de plus de 1000 personnes. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, Jérôme Tréhorel, le directeur des Vieilles Charrues, nous le détaille.
Ce sera soit une version papier ou numérique. La version numérique, ce sera avec tous anti-Covid. Et 3 solutions à aujourd'hui permettraient de valider un pass sanitaire. C'est la double vaccination. C'est un test PCR de moins de 48 heures. Un test antigénique de moins de 48 heures. Un test PCR positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois. Voilà où on en est aujourd'hui.
Voilà où on en est aujourd'hui. Alors l'objectif du pass sanitaire, nous dit-il, c'est de créer un environnement sécurisé sans Covid, a priori. Il sera obligatoire aussi aux Francofolies de La Rochelle du 10 au 14 juillet. Gérard Pons, son directeur, nous dit qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour rassurer les spectateurs dans l'enceinte du festival. Mais il reste des interrogations. Déjà, est-ce que les billets pourront être remboursés si l'on est positif ? Ce sera sûrement au cas par cas selon les festivals et leurs contrats. Et puis, est-ce qu'ils devront mettre en place eux-mêmes des stands de tests en amont du festival ? Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que le pass sanitaire va devenir la norme au moins jusqu'au 15 septembre.
Grosse organisation en vue. Merci Angèle Châtelier du service Culture d'Europe 1.
Et on a hâte en tout cas. Merci Virginie Salmen. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h bien sûr pour un nouveau journal. La météo, Anissa Dadi, on vous retrouve et vous nous promettez un temps qui sera encore mitigé pour demain.
J'aurais aimé vous promettre autre chose week-end de prolongé. Mais c'est vrai que demain, Isabelle, dès le début de la journée, nous aurons sur les Hauts-de-France, les Ardennes, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Vendée, la Gironde. Donc en fait, des Hauts-de-France jusqu'au sud-ouest en longeant les côtes, et bien donc sur toutes ces régions, nous aurons des pluies demain, des averses assez fréquentes qui deviendront orageuses sur la pointe bretonne et les Pays de la Loire. Ailleurs, nous avons un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Et puis dans l'après-midi, ces averses qui se cantonnaient aux côtes vont vraiment s'engouffrer dans le pays. Nous aurons les 3/4 du pays sous les averses demain. En fait, pour résumer la situation, il pleut partout, sauf en Provence, sur les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse. Dans le sud-est, voilà, on aura un temps plutôt agréable, même si le ciel sera souvent voilé. Les températures, 7 à 15 degrés le matin, c'est doux. 7 à Clermont-Ferrand, 9 à Toulouse et Quimper, 11 à Paris, 14 à Toulon. Au meilleur de la journée, comptez 13 à Cherbourg, 16 degrés à Bordeaux, 17 à Paris et Strasbourg, 21 degrés pour Grenoble et 23 sous le soleil de Marseille et d'Ajaccio. À partir de 19h, je vous dirai à quoi vous attendre pour le lundi de Pentecôte.
Ben oui, week-end prolongé, ça nous intéresse. Merci beaucoup, Anissa. On vous retrouve tout à l'heure. We'll be right back.